C'est le jour de la mémoire du Couseran, comme tous les dimanches matins. Et aujourd'hui, vous allez, Raymond, nous parler de la première station de ski en Couseran. Raymond, bonjour.
Eh bien oui, c'est même, j'en ai souvent parlé de cette histoire de ski, et plus particulièrement dans ce grand club qui était le ski club Saint-Gironnais. Alors aujourd'hui encore, je vais évoquer une période de cette formidable aventure liée à un nouveau sport arrivé en Couseran il y a plus de 110 ans. Bien entendu, chers auditeurs, bonjour à vous tous et merci d'être à l'écoute toujours aussi nombreux, j'ajouterai toujours aussi intéressés et toujours aussi curieux. Voilà, comme quoi la curiosité n'est plus un vilain défaut. On va s'intéresser aujourd'hui, en ces temps de froidure quand même, et pourquoi pas de neige, car il en faut. On va reparler de toutes ces aventures qu'ont vécues les pionniers, entre parenthèses, entre guillemets, du moins du ski club. Car déjà, dans les années 1900, on découvrait cette distraction qui va vite devenir un nouveau sport. Ben oui, finalement, ça sera un nouveau sport. Alors, ça se passait au Larèche, sur les pentes du Bouyrèche, ou alors dans le secteur d'Aulus. Et c'est ainsi que fut exploité au lieu dit la trappe. On y accédait bien entendu à pied, et depuis Aulus. Et c'était déjà du sport, une véritable épopée, à laquelle vont prendre part de très nombreux couseranais. Et alors, bien entendu, sans pratiquement aucun moyen, mais une volonté et un engagement sans précédent. Et c'est ainsi, alors je vais résumer, que va naître le ski club Saint-Gironnais. Et c'était, je pense, au mois de décembre, le 12 décembre, je crois, 1924. Et alors, il était fort d'une quelques dizaines de membres, à ses débuts. Je pense qu'un an après, ils étaient 150. Enfin, toujours est-il que dans les années 74 ou 15, écoutez bien quand même, le ski club de Saint-Gironnais comptait près de 1800 membres, et on peut dire qu'à l'époque c'était le plus important des Pyrénées. Voilà. Donc ce ski club d'ailleurs, dont beaucoup de membres, il faut le redire, vont s'illustrer avec courage. Et alors là j'enchaîne sur une autre histoire, justement durant ce conflit de la Grande Guerre, et leur connaissance justement de la montagne couseranaise. Il y est pour beaucoup dans ce qu'ils ont pu faire. Et cette année, c'était dans les années 40-49, quelques temps après, ils avaient tous rejoint de près de très nombreux, disons aussi, adeptes pour fêter le 25e anniversaire. Voilà, parce qu'ils voulaient marquer cette époque. Alors je vais résumer, vous allez voir, c'est un peu cette fabuleuse histoire. Alors c'est au cours de ces derniers mois, donc, de l'année, alors particulièrement convivial, bien entendu, vous l'imaginez, après surtout des années d'incertitude, que l'engouement renaissant va engendrer quand même des envies, et donc des projets. Alors souvenez-vous de ces nombreux champions du ski club, donc, puisque j'ai dit que c'était le plus important des Pyrénées, et il y avait des noms comme Clara, Zizi Clara, les Savignac, les Manon, enfin, vous voyez, tout un tas. J'en ai parlé souvent, mais c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Mais enfin, toujours est-il que à partir de ces années, donc 40, même pendant la guerre, les pentes, donc, de Souleyous, attirer donc de plus en plus d'adeptes, d'amateurs, disons. Et alors, les membres de ce club, qui était déjà formé quand même, avaient décidé d'y construire un refuge. Et alors, un refuge, c'était une véritable gageure quand même, surtout en pleine occupation allemande, compte tenu d'une part des restrictions de toutes sortes, et pourtant, au prix de nombreux efforts, et surtout de beaucoup d'ingéniosité, de débrouillardise, le rêve va devenir réalité. Et alors, c'était M. Auberti, donc je me souviens plus où il travaillait, qui avait fait faire les plans. Henri Manot va se mobiliser également. C'était l'épicier du Pont-Vieux, avec ses troupes. Et ce fut décidé. Ce serait une construction en bois d'environ 50 mètres carrés. Et c'était quand même une première à cette altitude. Ce qui fait que l'étude va faire ressortir cela, que cela représente, ils avaient fait des études approfondies quand même, écoutez bien, 6 tonnes de bois, il y avait environ 100 kilos de ferraille, hein, de toutes sortes de tôles, de ferronnerie, etc. Alors n'oubliez pas, nous sommes dans les années 1941 quand même. Hein. Et même si le sud-ouest était encore en zone libre, c'était relativement difficile de circuler. Sinon, avec des voitures à acétylène ou des camions à gazogène. Et il était aussi encore moins facile de trouver des produits d'alimentation et de construction. Et c'est là qu'on va voir qu'en Couserans, la solidarité n'était pas un vain mot. Vous allez voir pourquoi. Ainsi, malgré la vigilance des Allemands, c'était surtout des douaniers qui surveillaient, il y en avait énormément, parce que c'était la plaque tournante de tous les douaniers d'une grande partie des Pyrénées. Donc. Et ces derniers, les Allemands réquisitionnaient pratiquement tout, et les artisans, les commerçants, des ouvriers paysans, il y avait même des professions libérales qui vont se mettre en marge de tout ça, beaucoup de notables aussi, ouais, c'est à l'époque, et même les papeteries bergesses et les papeteries de Lézard avaient des arrangements, je dirais mieux des combines, qui vont intervenir un peu partout pour que ce rêve se réalise. Alors après beaucoup de débrouillardise, d'ingéniosité, car les plans et les études avaient fait ressortir quand même énormément de besoins. Et comme j'ai dit, après vous avez vu 6 tonnes de bois, enfin bref, il fallait du ciment également. Tout cela, il a fallu le transporter. Alors avec des véhicules gazogènes et également des dizaines de mules. Donc, je ne sais même pas s'ils n'avaient pas loué en Espagne ou autre, parce qu'on est en altitude, donc, et puis il n'y avait pas de. C'était des sentiers. Il fallait véritables sentiers, pas de route ni rien. Et la plupart du temps aussi, c'était à dos d'homme que beaucoup de matériel sera acheminé, dans des conditions que l'on imagine. Aujourd'hui. Je ne vais pas citer tous ces bénévoles parce qu'ils étaient plus d'une quarantaine ou 50, je ne sais plus. C'était des mécènes également qui ont participé. Et alors cette construction sera le début quand même d'une nouvelle encore aventure, mais malheureusement, alors là on va venir plus contemporain, en 1987, donc 45 ans après son inauguration, eh bien ce chalet, qui faisait en effet 50 ou 52 mètres carrés, sera entièrement détruit par un violent incendie accidentel. Voilà. Mais tout ça, j'en avais déjà parlé. Mais revenons maintenant dans ces années 50. Alors, tous les membres fondateurs qui, depuis longtemps, réclamaient l'aménagement du col de la Trappe, et d'entre autres, il y avait M. Sistac, verront leur vieux rêve se réaliser. Alors, se réaliser, enfin, ça n'a pas été facile, hein, de tout repos, grâce à l'appui notamment de la Chambre de commerce, également la pugnacité, je jouerai, de Paul Anné, hein, Paul Anné, qui était le maire de Seix, qui a énormément fait, maire de Seix, conseiller général également, et dans le Haut-Salat, dont on lui doit beaucoup. D'ailleurs, j'en ai parlé de Paul Anné, il a énormément de choses à son actif pour le Couserans. Hein. Puis ce n'était pas des promesses en l'air. Il est allé jusqu'au bout de ses idées. Voilà. Et il faut le noter aussi. Également de l'engagement. Et parce que j'ai eu des témoignages là de l'engagement de René Desjean, vous voyez, qui fut en tant que conseiller général, qui fut un défenseur acharné du projet qui sera finalisé, voyez, donc grâce à sa ténacité, entre parenthèses. Et là, j'ai eu des témoignages d'un ancien président, M. Reynès, qui n'était pas du tout de son abord politique, et c'était lui qui m'avait dit que grâce à René Desjean et au niveau du Conseil Général, on avait pu débloquer pas mal de choses. Voilà. C'est bien de le préciser, de le rappeler aussi. Voilà. Et alors, ainsi, l'année 1951, après des années de travaux, car il s'agissait quand même de relier Aulus, et tout à fait en haut du col, de la trappe, ce que fit l'entreprise Andrieux, Andrieux Missou, voilà, de Seix. Alors Andrieux, qui pour la cause, savait attirer la curiosité d'une certaine population, hein, car c'était la première fois qu'il voyait un énorme bulldozer. Il avait dû louer ça, je pense, hein, et pour pouvoir réaliser cette route, et qui sera au final une belle route aux larges courbes. Alors, entre-temps, également, depuis Ustou, parce qu'il n'y avait pas de route de l'autre côté, avait des moyennes de fortune, tout le matériel nécessaire aux remontées jusqu'au Souliou, aux remontées de ski, sera acheminé. Et alors, c'était les premiers fils neige qui va être monté avec les moyennes du bord. Écoutez bien, il y a eu un moteur diesel. Et pour comme moteur, qui avait été fourni par Guillaume Amiel, l'Aulus, qui l'avait récupéré sur un car accidenté. Ça, c'était Guillaume qui me l'avait raconté à l'époque. Il m'a dit, il m'arrivait même le dimanche ou à n'importe quelle heure, il va falloir vite monter à la trappe pour aller le redémarrer. Vous voyez, très anecdotique. Alors, à signaler quand même que c'est grâce aussi à une souscription auprès des membres, des sympathisants un peu de partout, qu'ils avaient pu acheter tout le matériel nécessaire, en grande partie, voilà, de la station. Et je crois qu'ils avaient récolté à l'époque plus de 2 millions, vous voyez. C'était quand même assez important. Et c'est ainsi, si on peut dire, que la trappe était née. Et alors, à ce sujet, il a fallu quand même reconnaître qu'il fallait du courage, bien sûr de la pugnacité, comme on l'a vu, et surtout pas mal d'imagination, qu'à tous ces pionniers, parmi lesquels il y avait des opportunistes plus que d'autres, ce qui a créé bien sûr une certaine émulation, mais encore fallait-il avoir la bonne idée, et alors la bonne piste, j'ajouterais même. Et car il y a eu des entreprises pour le moins, disons, originales et surtout anecdotiques. C'est ainsi que j'ai retrouvé dans mon stock d'archives l'aventure, car c'en est une, de Jean-Baptiste Morette. Alors Jean-Baptiste Morette, bien connu à Aulus-les-Bains, forcément, et qui avait été cette aventure relatée dans un article d'une dépêche du dimanche. Et il y avait pas mal de trucs comme ça, régionaux. Et alors, cet article, moi, ça m'a amusé de le relire. Et je vais vous en faire part, en résumé, bien entendu. Et alors, c'est ainsi que tout avait commencé, bon, pour Jean-Baptiste Morette, à Toulouse. C'était, je pense, dans les années 62-63, par là. Et il raconte qu'il y avait négocié dans la Ville Rose un ancien wagon d'état-major de l'armée pour 30 000 francs de l'époque, bien sûr, mais sans les roues, car au complet, il fallait qu'il débourse 100 000 francs. Et alors, ce wagon, par quel moyen, je ne sais pas, enfin, il y avait pas mal de possibilités, hein, avec serait-ce que les frères Méry, qui avaient un porte-wagon, enfin, un tas de trucs. Enfin, toujours est-il que ce wagon fut amené sur le parking de la trappe. Hein. Alors, bien entendu, ils sont passés par Aulus, heureusement, hein, et la route étant terminée, et il fut posé sur des traverses de chemin de fer, donc qu'il avait récupéré à Oust. Et ces traverses, tout a une histoire, vous voyez, provenaient de l'hypothétique voie transpyrénéenne, donc, qui devait rejoindre Saint-Girons à l'Irida, voyez, toujours par le fameux tunnel de Col-Salo. Et alors, une fois qu'il a eu calé son wagon, tout ça, mis sur ses cales, et un peu, ça faisait comme un vide dessous, il avait aménagé avec quelques tables et un poêle à bois. Et alors, pour le plus pur bonheur, forcément, des skieurs, qui pouvaient ainsi se restaurer au chaud, déguster quelques saucisses grillées à la poêle, boire un vin chaud ou encore un ballon de rouge. Et tout cela, bien sûr, dans la bonne humeur. Et alors, Jean-JB Morette, je dis, c'était Papa Nous. Voilà, c'était Papa Nous. J'ai retrouvé ça aussi, ça devait être un surnom, comme quoi, comme j'ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, tout le monde avait des surnoms. Papa Nous, c'était Jean-Baptiste Morette. Voilà. Pour les habitués et bien entendu pour les intimes. Et alors, il fait bien partie, lui aussi, de ces pionniers, donc. Et avait plaisir à raconter tout ce qu'ils avaient vécu, et lui le premier, sur cette station de la Trappe, et réduite entre nous à sa plus simple expression, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait quoi, un fil neige, ce fameux fil neige, après il y en a eu un deuxième, et c'est ce que racontait donc Jean-Baptiste. Alors, les anecdotes, c'est pas fini, parce que quand je vous dis qu'il avait fallu du monde pour monter tout ça, à Dodone, avait des bourriques, avait des ânes, à Dodome, et c'est ainsi que, ça je l'avais relevé à l'époque, et c'est à noter quand même de nos jours, hein, c'est pour dire si les mentalités quand même ont changé. La gendarmerie avait même été volontaire pour donner un coup de main, hein, quand je dis un coup de main, et c'était, ils étaient, une, je crois, une bonne vingtaine. Et les gendarmes ont tiré des câbles, installé un moteur avec le capitaine Saint-Martin, qui était à l'époque commandant de la brigade Saint-Girons. Voilà. Alors j'en parle de M. Saint-Martin parce que je l'ai connu en tant que client. Voilà. C'était quelqu'un de réglo, mais vous voyez, de serviable également. Et alors c'est vrai qu'à l'origine, donc, avec des bénévoles, alors, il y avait de tout, hein, des huissiers, des notables, des commerçants à temps perdu qui allaient donc. Donner un coup de main ou autre, tout comme le chalet, dont j'ai parlé après. Et puis après, bon, quand la nuit arrivait, bien entendu, comme on dit, il faisait un peu la java. Et puis, on redescendait, tout ce petit monde redescendait, bien entendu, à ski sur Aulus. Voilà. Et c'est comme ça, donc, que ce domaine va se transformer en champ de neige. Et va devenir une petite station, voilà. Vous voyez. Et alors, c'est vrai que le maire de Seix, donc, pour l'année, pour le canton 12, conseiller général aussi, ils avaient, avec M. Sista, qui était assureur également, ils avaient monté un petit téléski sur des trépieds. Alors, c'était les enfants qui utilisaient ça au col de la Trappe. Hein. Et après l'année suivante, il fut construit le premier vrai téléski vers le Vallon Blanc. Avec des pylônes en bois, enfin, il avait fallu qu'ils captent également une source. Manque de peau pour récupérer de l'eau, bien entendu, mais le mortier gelait au fur et à mesure, certaines fois. Et enfin, toujours est-il que dans les années 66 ou 7, on avait inauguré dans les premiers équipements. Et puis il y avait ce jour-là, alors toujours avec un petit genre, ce qu'on appelle un cocktail maintenant, devant le fameux wagon. Et alors, Jean-Baptiste Morette avait raconté que lui, il était occupé dedans à préparer les boissons, des trucs comme ça, et que c'était M. Vignot, sous-préfet de l'époque de Saint-Girons, qui était monté, tenez-vous bien, à pied, un petit soulier de ville, et jusqu'au téléski, donc, et il y en avait un qui marchait aussi au gazogène, vous voyez. Et alors, pour le vin d'honneur, ils avaient servi du porto, et donc, comme Jean-Baptiste était occupé, il s'était aperçu à un moment donné que c'était M. Vignot, le sous-préfet de Saint-Girons, qui servait les clients à sa place. Et voilà, donc vous voyez un peu, ça se passait ça dans les années 70, par là, 71, voilà. Et donc, vous voyez, lui, alors il a évolué par la suite, hein. Il a acheté, c'était un baraquement des anciens chantiers de jeunesse, hein, qu'il y avait dans le Castillolet. Et donc, tout le monde avait donné, bien entendu, un coup de main pour monter donc ce fameux truc. Voilà un peu l'histoire résumée. Après, il y a eu le Cialtu, donc, de trucs. Et après, dans les années 69, ça j'en avais parlé, la station avait été reprise par les frères Pipi, donc Pipi frères que j'ai connu aussi, parce que ça, j'avais monté les premières antennes tout à fait en haut. Et donc c'est là que ça va être vraiment, comme on dit, l'explosion de cette petite station et la construction donc, de tous ces chalets que l'on connaît actuellement. Voilà un peu, vous voyez, les faits anecdotiques. Il y en a beaucoup, j'ai raconté beaucoup de choses, mais je me plais à retrouver et à vous faire part un peu de mes trouvailles. Voilà. Eh bien, voilà, alors je vous souhaite une bonne semaine au chaud. Enfin, il fait pas trop mauvais, on n'a pas trop à se plaindre, mais enfin, il fait meilleur dedans que dehors. Donc, je vous suis fidèle, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au